Et bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce libre journal du lundi soir où nous allons, avec de brillants esprits comme Gabriel Giraud, Pierre-Marie Sigaud et Paul Duquey, rédacteur en chef de Philite, parler de la collection Théoria chez L'Harmattan, mais d'abord évidemment notre éditorialiste préféré qui va nous parler ce soir de la crise de la justice. Merci Stéphane. Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, c'est une journée justice pénale morte qui est organisée par certaines corporations. Et par ailleurs, le garde des Sceaux a sanctionné disciplinairement une procureure d'Auch pour inaction dans l'horrible affaire du meurtre de la petite Yana. Je rappelle que le parquet, contrairement aux magistrats du siège, est sous la hiérarchie du ministre de la Justice. Et la question qui se pose dès lors à ce sujet est celle de savoir si les échecs de la justice sont imputables à des erreurs individuelles ou à un manque de moyens. Je vais examiner la seconde hypothèse. En posant la question suivante, y a-t-il eu une forte augmentation du nombre des affaires à traiter, d'où résulterait un manque de moyens qui, par suite de débordement des juges. Alors, pour répondre à cette question, je voudrais citer le livre de Nicolas Le Cochin, « Cet État qui tue la France », Le Cochin est venu en parler en général dans mon émission du 5 juin, il y a 3 semaines. Il a parlé du livre en général, mais comme ce livre est important, il n'en a pas parlé sur ce point particulier. Et donc, je vais citer, voilà ce que dit Le Cochin, page 227 de son livre. « Le budget de la justice a doublé en 20 ans. 729 postes de magistrats ont été créés en 4 ans, soit une augmentation des effectifs d'un quart. La loi de 1995 a créé des assistants de justice, c'est-à-dire des personnes ayant effectué 4 années d'études juridiques supérieures et qui aident les juges dans la préparation de leur travail. 1250 assistants de justice ont été recrutés de 1995 à 2001. Parallèlement, le nombre de dossiers ouverts chaque année devant les juges d'instruction n'a cessé de se réduire, de 1992 à 1999, passant de 59 000 à 39 000. Les juges parisiens ont reçu 6474 nouveaux dossiers en 1994 et seulement 3820 en 1999. Tandis que le nombre d'ordonnances pénales rendues par le tribunal de police de Paris était, de 92 à 99, divisé par 3. Par conséquent, pendant ces années, les effectifs ont augmenté et le contentieux a été soit stable, soit en diminution. Fin de citation de Le Cochin. Alors, Le Cochin a écrit ces lignes il y a 20 ans. Depuis, le nombre des affaires civiles a encore diminué, mais celui des affaires pénales a sans doute augmenté vu la hausse de la criminalité. Mais pendant cette même période, les moyens alloués à la justice ont continué de monter fortement. Et là, il faut que je vous lise la conclusion du livre dont je viens de citer un extrait. Et la voici. Le nombre de juges et de fonctionnaires de justice est en constante augmentation. Le nombre d'affaires reste stable et pourtant les délais augmentent. Cela veut dire concrètement qu'on a une baisse de la productivité du système. Car il y a des juges qui travaillent et d'autres pas. Petite parenthèse de ma part, j'ai expérimenté ça tout à fait. Il y a des juges très travailleurs et d'autres qui sont, se mettent en arrêt maladie. Bon. Alors je continue ma citation. Il laisse donc d'autres pas. Il laisse traîner les dossiers et s'en moque car de toute façon ils ne sont pas sanctionnés. En revanche, l'avocat qui ne fait rien voit sa clientèle se réduire. Et contrairement à ce que l'on croit, le temps moyen d'un travail d'un juge n'est pas supérieur à celui d'un autre fonctionnaire. Il y a en effet des audiences qui se terminent à 23 heures, mais l'horaire habituel est 16h30. Par ailleurs, chez les juges, il n'y a pas de nombre minimum de dossiers à traiter, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'objectif, il n'y a aucune évaluation. Et donc, ce livre souligne aussi que la France a été condamnée par la Cour européenne à 42 reprises pour violation du délai raisonnable dans le traitement d'une affaire. L'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont subi aucune condamnation de ce genre par la Cour européenne de justice. Enfin, maintenant, le Royaume-Uni n'en est plus, mais à l'époque. Et la Pologne, le Portugal ou la Grèce n'ont été condamnés qu'à respectivement 7 et 10 reprises. Ce n'est pas 42 reprises comme la France. Donc là, je réponds à la question. Eh bien, il n'y a pas eu une forte augmentation du nombre des affaires à traiter. Et donc, il n'y a pas un manque de moyens. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et il y a plutôt... Vous jugerez si on doit retenir le manque de moyens comme la cause de la crise de la justice, ou les performances individuelles, le manque de productivité. Et il me semble que le manque de moyens n'est pas la bonne explication. Et je pense qu'il était nécessaire de traiter cette question aujourd'hui, puisqu'il y a une journée justice morte. Alors, je profite de cette fin de chronique pour signaler que dans mon émission le vendredi prochain, le 3 juillet, je rediffuserai les feuilletons qui ont eu le plus de succès. Et c'est un feuilleton qui s'appelle « La rue du Faubourg du Temple ». Et j'espère qu'il vous amusera, amis auditeurs, en cette période de vacances d'été, puisque je vais continuer à rediffuser en juillet et en août ces feuilletons qui ont eu du succès. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Simon, et avec impatience, les meilleurs de vos feuilletons. C'est une très bonne manière de commencer l'été.
Merci. Au revoir Richard.
Au revoir Patrick. Chers auditeurs, voilà, c'est le moment de commencer la deuxième partie de ce Libre Journal du lundi soir, en accueillant donc l'élite intellectuelle de la France, je ne peux pas le dire autrement, rangée tout entière comme une seule armée derrière Pierre-Marie Sigaud, qui anime la collection Théoria chez l'Armatan. Bonjour Pierre-Marie.
Bonsoir.
Et parlez bien dans le micro, oui. S'il vous plaît. Pierre-Marie, donc cette collection Théoria, vous l'avez créée il y a combien de temps ?
Je l'ai créé en 2007, mais je l'ai reprise d'une collection qui existait déjà et que je dirigeais aux éditions L'Âge d'Homme.
Voilà, la collection Delphica.
Voilà. Et donc, après les problèmes de Dimitri et son décès, pris contact donc avec les éditions L'Armatan.
Donc c'est normal, les auditeurs nous écrivent régulièrement,
hein,
et donc voilà, les messages nous arrivent au fur et à mesure. Et parlez-moi, Pierre-Marie, il faut vraiment que vous parliez pile dans le micro, en fait.
Comme ça.
Voilà, bravo.
Voilà.
C'est aussi clair que vos livres de cette manière-là.
Voilà. Et donc, j'ai repris cette collection qui a quand même changé de caractère. Et qui existe jusqu'à nos jours. Donc, je viens de publier le 91e livre de la collection. C'est le livre de notre ami Gabriel Giraud. Voilà. Et alors, quelle est la spécificité de la collection Théoria? Outre évidemment qu'elle avait été créée à l'instigation de Vladimir Dmitrievitch à l'âge d'homme. La collection avait été reprise et créée donc pour répondre aux exigences de rigueur intellectuelle et scientifique qui sont celles de la recherche universitaire moderne et de répondre donc à ces exigences en recourant à ce qu'on appelle la philosophia perennis.
Alors, cette philosophia perennis, pour le dire autrement, c'est bien sûr une philosophie, une doctrine métaphysique, donc c'est comme ça que vous définissez votre collection. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, cette doctrine métaphysique, il ne s'agit pas de parler uniquement d'Heidegger, non, pas du tout. Il s'agit en fait de retrouver un certain sens du sacré, un certain sens du religieux, de la transcendance. Et donc, des cosmologies traditionnelles font partie de votre champ d'étude, le symbolisme, la théologie de l'histoire, l'art sacré, et donc ce n'est pas un grand fourre-tout, c'est une manière d'élargir les cadres classiques de la recherche philosophique ou de l'histoire de la philosophie. Gabriel Giraud, vous êtes l'auteur. Bonjour. Justement de René Guénon, La tradition primordiale et le christianisme, et René Guénon donc, qui au XXe siècle décide de tenter un syncrétisme très ambitieux entre bouddhisme, christianisme, et qui aboutit à l'idée qu'il y a une espèce de tradition avec un grand T d'une religion pré-adamique ou juste post-adamique, en tout cas une religion commune à l'ensemble de l'humanité sur toute la Terre et dont Confucius, Jésus-Christ, Sénèque sont soit des étincelles éparpillées, soit encore des petites flammes qui... Mais voilà, vous allez nous le dire plus intelligemment et c'est le moment de présenter notre dernier invité. Donc Paul Duquet, rédacteur en chef de la revue Philite, voilà, donc qui aime la philosophie et la littérature.
Bonsoir monsieur, oui, et non seulement j'aime la philosophie, mais je l'enseigne effectivement.
Et voilà, alors voilà, j'ai marqué juste que vous étiez rédacteur en chef de la revue Philite, mais vous enseignez la philosophie. Avec Pierre-Marie, donc ce qui est admirable, c'est que vous réussissez à éditer des auteurs recrues d'expérience, Henri-Pierre Rinkel, né en 1958, et visiblement Gabriel Giraud et Paul Duquet, qui ont l'air d'être nettement plus jeunes, et sinon d'être des perdants de l'année, du moins d'avoir à peine commencé à naître au XXe siècle finissant. Ce qui est intéressant, c'est que cette philosophia perennis, c'est pas juste une question de vieil érudit, c'est aussi une source à laquelle viennent s'abreuver de jeunes esprits.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'était un petit peu le but, hein, c'est de rendre à nouveau intelligible aux jeunes esprits qui vivent dans cette époque assez problématique quand même, de rendre à la religion, au sacré, à la transcendance, leur intelligibilité. C'est-à-dire, y compris, et surtout peut-être d'ailleurs dans le domaine de la cosmologie. Quand on parle de ces questions-là avec la plupart des jeunes actuellement, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est très... Alors que il y a donc tout un travail à faire pour rendre au fait religieux sa lisibilité, son intelligibilité, dans cette atmosphère de, d'agnosticisme généralisé, et d'athéisme virulent.
Alors, Paul Ducueil, vous qui enseignez la philosophie, évidemment, vous trouvez dans la collection Théoria autre chose que ce qu'il y a dans les manuels de philo, où généralement, bon, il n'y a pas trop René Guénon. C'est à peine si on parle de Confucius. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un texte de Charles Maurras dans mon manuel de philo. J'étais dans une école libre sous contrat. Charles Maurras, le petit poussin, faisait partie de la chose. Je suppose que dorénavant, les manuels de philosophie sont expurgés des auteurs les plus nauséabonds et qu'on a droit qu'à de la philosophie bien officielle.
Oui, alors après, disons que la perspective de Charles Maurras était extrêmement différente, étrangère même, et même opposée en fait à celle de René Guénon et de plusieurs penseurs du pérennialisme. D'ailleurs, la réception de Guénon dans l'Action française est un sujet à part entière. Guénon avait attiré les sympathies de Léon Daudet, son livre sur Orient et Occident en particulier, c'est-à-dire que Guénon ne croyait pas du tout à ce qu'on appelle aujourd'hui le choc des civilisations, il croyait plutôt au choc des incultures. C'est-à-dire que c'est en se détournant de notre propre tradition que nous nous exposons à une vulnérabilité et à une maladie, mais une maladie et une vulnérabilité qui s'expliquent justement par le chemin descendant, involutif, qu'a pris l'Occident au cours de sa modernisation. Et Guénon pensait au contraire que la rencontre avec les autres grandes civilisations, avec les autres traditions, permettrait à l'Occident de redécouvrir ses impensés, ainsi que les axes fondamentaux de sa spiritualité qu'il a oubliés, pour pouvoir aboutir à une régénérescence spirituelle. C'est-à-dire que Guénon croyait dans les vertus de la rencontre entre l'Orient et l'Occident pour une régénération du monde occidental lui-même. Donc, au contraire, il pensait que la fermeture à l'égard des autres traditions ne pouvait qu'amener l'Occident à une confiance tout à fait naïve dans les superstitions qu'il a lui-même engendrées. La superstition du progrès, et j'allais dire toutes les maladies de la démocratie qu'analysait déjà Tocqueville d'ailleurs. Mais la critique de Guénon n'est pas seulement politique, elle est vraiment, elle prétend toucher au principe même de la civilisation, c'est-à-dire aux bases spirituelles en fait de la civilisation. Ça c'est par rapport à l'Action française. Et Léon Daudet justement était sensible à cette démarche, contrairement à Maurras qui se moquait des mésaventures.
Manvantara.
Voilà, il faisait un jeu de mots sur le concept de Manvantara qu'utilisait Guénon à partir de la doctrine hindoue. Cette réception dans ce milieu est très contrastée, comme d'ailleurs les rapports avec le catholicisme. Mais pour reprendre votre question sur la philosophie, effectivement, les auteurs du pérennialisme, René Guénon, Fritjof Suon, Ananda Kumaraswamy, pour ne citer que eux trois, effectivement, ne font pas du tout partie du programme de philosophie. En revanche, une philosophe comme Simone Veil, qui en est très proche, je parle de la philosophe et non de la ministre, et qui est très proche de la doctrine pérennialiste sur de nombreux points, fait partie du programme de philosophie depuis plusieurs années, et j'allais dire surtout l'un des grands maîtres de la philosophie pérenne, qui est Platon. Voilà. Mais qui n'est pas le Platon auquel nous sommes habitués dans la philosophie, j'allais dire, dans la vulgarisation académique, mais vraiment le Platon tel qu'il était enseigné, d'ailleurs, dans les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire comme ouvrant sur une véritable doctrine métaphysique et politique, métapolitique, cohérente.
Alors, cette irruption de René Guénon dans le paysage intellectuel, un être un peu étrange, qui se tient volontairement à distance de l'université, qui essaye de réunir l'Orient et l'Occident, qui explique d'ailleurs que l'Occident est en train de courir à sa perte, il dénonce le progrès, mais il dénonce carrément l'usage de la raison, en tout cas de cette raison raisonnante qui, selon lui, a asséché en fait la vitalité occidentale. C'est exactement le sujet de votre ouvrage, Gabriel Giraud. Voilà, René Guédon, la tradition primordiale et le christianisme, où vous décidez de reprendre, si j'ose dire, René Guénon et de voir si cet homme voilà, qui s'est converti à l'islam et donc qui n'a pas suivi la voie classique d'un catholicisme plus ou moins tempéré par l'hellénisme n'a pas malgré tout aujourd'hui quelque chose à nous dire pour redéfinir le catholicisme, redéfinir le rapport au monde du catholicisme. Comment avez-vous choisi René Guénon comme objet d'étude?
En fait, René Guénon, c'est... ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà, pour les chrétiens, pour les catholiques, son œuvre se présente à la fois comme une énigme et en même temps une épreuve. Parce que, une énigme parce qu'on ne sait pas d'où il tire ses connaissances. C'est quelqu'un qui a probablement eu une illumination, enfin, en tout cas, qui avait une intuition très forte. On sait par ailleurs qu'il a été initié, apparemment très jeune, et par des maîtres hindous, potentiellement. Puis après chez des taoïstes et après chez des musulmans et en fait ce qui est étrange c'est que c'est une œuvre qui en fait détient toutes les clés pour en fait comprendre non seulement le christianisme mais en fait toutes les religions, c'est-à-dire c'est une œuvre qui donne les clés intellectuelles pour comprendre ce que c'est qu'une tradition et puis même en fait le ce que c'est que le mystère, quoi, le mystère du Christ. Et en fait, après ce que vous disiez, c'est que ce qui est étrange, c'est qu'il n'était pas chrétien. Enfin, il est né dans le catholicisme, mais il n'était pas chrétien. Et en fait, toute son œuvre, quand même, je pense qu'on peut le dire quand même, en fait, montre les limites du catholicisme, en tout cas du catholicisme actuel. Puisqu'en fait, Guénon, qui lui-même n'était pas chrétien, il ressemble à un maître. Qui semble en fait très bien connaître Dante, par exemple, au Moyen-Âge. On a l'impression qu'il le connaît. C'est assez mystérieux. Donc en fait, c'est en fait quelqu'un qui est en maîtrise spirituelle, qui est en maîtrise des mystères au sens en fait classique. Et en fait, son œuvre, du coup, se présente un peu comme un appel. Il écrit son œuvre en Occident et en France. Et en fait, pour les chrétiens, c'est un appel à en fait se hisser à sa hauteur. Puisqu'on se dit, mais comment se fait-il que cette hauteur soit en possession intégrale de tous les mystères de la religion? Et donc, le but du livre, mais enfin, je viens après de nombreux travaux, mais en fait, le livre, ça se veut une synthèse. Le but, en fait, ce sera en fait d'intégrer l'enseignement de René Guénon, parce que je pense, et je pense qu'on sera tous d'accord ici, c'est que je pense que en fait, cette œuvre en fait, détient des clés de en fait, redressement spirituel, y compris pour le christianisme.
Pierre-Marie Sigaud, tout à l'heure, en introduisant cette collection Théoria, vous disiez que justement, l'un des axes de cette collection, c'était de rendre la religion intelligible. Voilà. Et alors, qu'entendez-vous par religion dans le petit cercle Théoria?
Religion, c'est... On le prend dans le sens traditionnel. Voilà. L'intérêt de la collection, c'est que il essaie de montrer que tout cela est, encore une fois, intelligible. Tout cela s'adresse à l'intelligence. La religion n'est pas un loisir, c'est pas un match de tennis ou des choses comme ça. Voilà, c'est sérieux. Et surtout, encore une fois, dans le monde moderne qui est marqué quand même par un refus radical de toute dimension, non seulement religieuse, mais transcendante, de sacré. Enfin, c'est une des spécificités de la collection, c'est qu'effectivement, elle est assez ordonné à certaines questions, mais ces questions sont quand même assez larges. Encore une fois, ça peut être... le symbolisme, la cosmologie traditionnelle, les anthropologies traditionnelles, les rapports de l'homme et du sacré, les rapports avec les réalités transcendantes, et ça c'est de l'ordre de la religion, effectivement. L'eschatologie aussi.
Alors l'eschatologie, je crois que de temps en temps, n'hésitez pas à faire comme si tout le monde n'était pas parfaitement ferré à glace sur ce genre de thème.
Voilà, alors l'eschatologie, c'est ce qui concerne les fins dernières.
Voilà. Parfait, les fins dernières. Voilà. Voici un vaste programme, comme dirait le général. On a l'impression, en lisant le catalogue, on a l'impression aussi, à vous entendre, Gabriel Giraud, qu'il y a dans la démarche guénonienne, qu'il y a dans cette philosophia perennis, l'idée aussi de chercher les ressemblances entre des théories, des religions, des pratiques que l'histoire culturelle a éloignées. Et c'est vrai qu'entre un confucéen ou un néo-confucéen, le renouveau du confucianisme du côté du Xe siècle par rapport à Maître Kong, qui est plus ancien, par rapport à un stoïcien. Donc on a appris à différencier des traditions et vous tenez, René Guénon l'a fait, mais il n'était pas le premier, à au contraire considérer qu'il y a une espèce de vérité initiale qui s'est éparpillée. Quel est le fondement de cette intuition ?
On peut peut-être citer le passage de saint Augustin, qui est assez significatif de notre point de vue.
Je vous en prie, c'est ton livre.
Donc oui, je vais citer le passage de saint Augustin. C'est « Car ce qui se nomme aujourd'hui religion chrétienne existait dès l'Antiquité et dès l'origine du genre humain jusqu'à ce que le Christ s'incarna, et c'est de lui que la vraie religion, qui existait déjà, commença à s'appeler chrétienne. » Et en fait, l'idée de tradition primordiale chez Guénon, on pourrait prendre l'image d'une montagne. C'est-à-dire que la tradition primordiale, c'est le sommet de la montagne, c'est la vérité métaphysique. Et en fait, les religions, ce sont en fait des voies. En fait, et selon d'où vous partez dans la montagne, pour reprendre l'image, c'est-à-dire d'où vous partez dans en fait, l'histoire, dans l'espace et le temps, eh ben, en fait, ça fait, vous aurez des voies qui sont différentes. Et pourtant, toutes les voies, si elles vont au bout, convergent vers un seul sommet, qui est la vérité, qui elle-même, la vérité, comme elle est universelle, éternelle et transcendante, elle est au-delà de l'espace et du temps. Donc en fait, les religions, c'est des manifestations historiques de la vérité universelle, et puis évidemment, c'est une manifestation qui est incarnée. Guénon dit même que les religions sont adaptées à un peuple particulier, parce que c'est une vision qui en fait respecte la diversité des peuples, la diversité des cultures. Guénon dit même c'est la diversité des mentalités. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes mentalités. Et chaque civilisation a en fait une religion qui correspond normalement à son être.
À son tempérament.
Voilà, mais son tempérament. Et en fait, c'est sa religion, c'est sa voix. C'est son moyen d'accès à la vérité universelle qui est la tradition primordiale, en sachant que quand Guénon dit ça, il parle en fait de tradition primordiale, il, je crois, si j'ai bien compris, qu'il entend par là d'abord un état spirituel. C'est-à-dire que la tradition primordiale, c'est d'abord ce qu'il appelle l'état primordial, qui est un état spirituel, qui en fait, à l'origine, c'est en fait l'état adamique. C'est-à-dire que c'est la religion d'avant la chute, c'est-à-dire au moment où l'homme...
Antélapsaire, comme nous disons, nous autres qui causons eschatologie.
et en fait, c'est un état que, pour faire simple, c'est un état où l'homme est uni à Dieu et où l'homme est conforme à son essence. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur l'eschatologie, parce que l'eschatologie, c'est la fin du monde, en fait. En fait, l'idée, c'est que la fin des temps, qui est la fin de l'histoire, et voire même la fin du monde, du cosmos, il y aura une restauration de la tradition primordiale, c'est-à-dire que toutes les religions trouveront leur finalité et leur achèvement dans la restauration de la tradition primordiale, qui sera en même temps une réintégration de cet état spirituel, c'est-à-dire en fait une transformation de l'humanité, en tout cas pour ceux qui y auront accès. En fait, et en fait, c'est en fait ce que les chrétiens appellent la résurrection dans la Jérusalem céleste, qui est un nouveau jardin d'Éden. Mais en fait, c'est un état spirituel. Et donc, c'est important de positionner le christianisme par rapport à cette conception de la tradition primordiale, parce que c'est pas seulement pour comprendre notre propre religion qui... Ou pourtant, on a en fait déjà du mal en fait à la comprendre. Mais ça nous sert déjà pour en fait devenir chrétien, mais ça nous positionne, je crois, ça c'est un peu un pari, mais ça nous positionne aussi dans une perspective eschatologique qui est le retour du Christ à la fin des temps.
Paul Ducueil.
Oui, par rapport justement à ce que vient de dire Gabriel Giraud, je précise justement à propos de son dernier livre, donc René Guénon, La tradition primordiale et le christianisme, qu'il suit, que l'ordre des chapitres suit le schéma traditionnel de la théologie chrétienne, exitus reditus, c'est-à-dire sortie puis retour à Dieu. Et c'est effectivement exactement la manière dont René Guénon comprend l'involution, puisque c'est plutôt que l'évolution, de la tradition, de cette fameuse tradition primordiale, ou cette tradition perpétuelle et unanime, comme il l'appelle, au cours de l'histoire. Voilà, c'est un mouvement de sortie, de chute, et de retour à Dieu. Après, ce qui n'est pas sans poser certaines questions, puisque quand je vois ce schéma, et que je pense à Saint Paul de notre côté, je pense à ce verset de Saint Paul qui dit... la bienheureuse faute, qui parle de la bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur, c'est-à-dire que néanmoins, voilà, du point de vue chrétien, le Christ apporte quelque chose de plus encore que l'état adamique, et qui est précisément la participation à la vie divine elle-même. Ce qui, là, pose effectivement la question, le problème des rapports entre, effectivement, l'idée de tradition universelle et cette idée de la singularité du christianisme. Et d'ailleurs, à propos de la collection Théoria...
qui, il faut le dire, oui, est relativement neuf par rapport à cette tradition universelle, et sans parler de l'islam qui est encore plus récent, et sans parler, pour rentrer dans le jeu de René Guénon, de toutes les autres religions qui ont pu apparaître au cours des âges, comme le communisme qui qui est parfaitement adapté à l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui est parfaitement adapté au XXe siècle, et où on a là aussi une aspiration aux fins dernières, une idée de rénovation du genre humain. Enfin, donc on se retrouve avec des traits religieux évidents. Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui est absolument stupéfiant sur le caractère religieux du communisme.
Alors effectivement, le communisme est un messianisme athée, comme on dit, effectivement. Guénon, ce qu'il y a de très intéressant, il a, pour une enquête sur y a-t-il une société internationale, quelque chose comme ça, avait fait une distinction très intéressante entre l'international et le supranational. C'est-à-dire que l'internationalisme, d'un point de vue guénonien, est une caricature de la supranationalité traditionnelle, qui correspond effectivement dans la civilisation chrétienne à la chrétienté. Et effectivement, cette aspiration à refonder l'unité du genre humain sur un principe qui n'est pas le principe, qui n'est pas Dieu, c'est précisément une inversion qui est effectivement, du point de vue de René Guénon et des auteurs de pérennianistes, qui est absolument indéfendable, qui est une inversion parodique. Voilà.
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait que le communisme, c'est en fait une religion moderne. pardon. Mais en fait, il faut aussi comprendre ce que Guénon veut dire par tradition. C'est-à-dire, pour Guénon, la tradition, ce n'est pas une création humaine, c'est en fait même pas une culture. La tradition, Guénon dit qu'elle est d'origine non humaine, c'est-à-dire supra-humaine, donc soit angélique, soit carrément divine. Et en fait, la tradition, pour Guénon, en fait, c'est la traduction d'un terme hindou qui est le dharma. Et en fait, le dharma, on pourrait dire, c'est l'ordre cosmique ou la loi universelle, c'est la loi éternelle. Et donc, participer à la tradition, c'est participer à la loi divine. Et c'est pour ça que je rejette le parallèle avec ce que vous disiez sur le communisme, qui est en fait une caricature. Oui, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il y a trois monothéismes, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont effectivement arrivés en dernier presque. Enfin, après, il y a aussi le bouddhisme, etc. Mais sont en fait considérés comme des religions de la fin des temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas tant tournées vers l'origine. Elles ont une dimension très historique, mais en tout cas surtout pour le judaïsme et le christianisme. Parce qu'en fait, elles sont adaptées à la dernière partie de l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça que les trois religions sont en fait tendues vers l'avènement ou le retour du Messie, puisque ce sont des religions de la fin des temps. Et là aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que dans le monde hindou, par exemple, l'incarnation de Jésus-Christ en fait correspond à une fonction qui a été annoncée dans les textes hindous, qui est en fait ce que les hindous appellent un avatar. C'est-à-dire un avatar, c'est une descente divine, c'est-à-dire que le verbe, je pense qu'on peut dire ça, le verbe divin descend parmi les hommes à intervalles réguliers pour rétablir l'ordre cosmique, et donc fonder souvent une religion. Et il se trouve que dans les textes hindous, ils annonçaient l'avènement dans la dernière partie de notre cycle historique, qui s'appelle le Kali Yuga, c'est le l'âge sombre, l'âge de fer, et que normalement, une manifestation divine devait avoir lieu parmi les peuples non hindous, ce qui pour un hindou est en gros chez les barbares. Et il y a quand même pas mal de d'indices qui permettent de penser que effectivement c'est en fait Jésus-Christ.
Effectivement, on a l'impression que dans le périnialisme, on compare les choses et que on se plaît à relever ce qui est des identités ou en tout cas des ressemblances si frappantes qu'on a l'impression que ce sont un peu comme les membres dispersés d'Osiris, donc une statue qui a été brisée, dont les éclats sont enquistés ici et là. Ce modèle comparatiste, Paul Duquet, est-ce que c'est bien Paul?
Oui,
okay, je me trompe sur tous les prénoms en ce moment, donc c'est absolument atroce. Ce modèle comparatiste, est-ce qu'il est pertinent d'un point de vue philosophique? Parce que aussi bien, on peut, il y a eu des tentatives de faire coller tel texte avec tel autre, et il y a toujours quelqu'un qui fait remarquer que dans l'oubli de tel ou tel détail, en fait, c'est au contraire quelque chose d'infiniment structurel qui a été écarté et que au profit des ressemblances formelle et superficielle, on a oublié ce qui est fondamental.
Alors effectivement, c'est une objection extrêmement importante puisqu'il en va de la rigueur de la méthode ici engagée. Méthode d'ailleurs que Pierre-Alain Riffard, c'est ça, donc l'auteur du livre L'ésotérisme, appelle la méthode des concordances, qu'il distingue de la méthode des influences. C'est-à-dire que la méthode historico-critique étudie les influences d'une tradition sur une autre, tandis que la méthode des concordances auxquelles se prêtent les auteurs périnianistes suivent la méthode des concordances. Mais quels critères utiliser pour que cette méthode-là soit rigoureuse? Eh bien, cette réponse, je la trouve dans l'œuvre de Simone Veil. Simone Veil écrit noir sur blanc que il ne faut pas chercher les concordances par des rapprochements faciles, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des similitudes qu'il y a réellement des concordances. Il faut approfondir l'identité propre de chaque religion, et c'est ayant approfondi l'identité propre de chaque religion que, si l'on se rend compte qu'il y a des concordances qui résistent à cette épreuve de l'identification, de la singularisation, que l'on peut alors les tenir comme des concordances véritables. Et c'est tout un travail, c'est toute une méthode, en fait, qui est extrêmement exigeante. Alors, est-elle réussie par Fritjof Suon, par René Guénon, par Ananda Kumaraswamy, au lecteur d'en décider? En tout cas, ça définit un programme extrêmement fécond de comparatisme religieux. C'est-à-dire que, de même que Descartes, si j'ose une analogie, parce qu'on appelait René Guénon le Descartes de l'ésotérisme, je ne sais plus qui l'appelait comme ça. Descartes, pour rappel, lui, il a eu ce pari-là d'essayer de dégager une vérité certaine à partir de l'expérience du doute. C'est-à-dire que faisons l'expérience d'un doute qui soit le plus radical possible et essayons de voir si une vérité certaine subsiste à ce doute. S'il y a une vérité certaine qui subsiste, qui résiste à cette épreuve du doute, c'est que c'est du dur. C'est une vérité certaine. Et bien de la même manière, la méthode que propose Simone Veil, c'est précisément de comparer les différentes traditions en persévérant dans leur identité propre, c'est le terme qu'elle emploie, et à partir de là, toutes les concordances qui en résulteront seront certaines, puisqu'on aura précisément fait le postulat méthodologique de leur singularité. Oui. Et donc, effectivement, le pari, méthodologique d'un certain pérennialisme, en tout cas celui que je trouve chez Simone Veil, c'est de dégager cette universalité, donc cette unité transcendante des religions, à partir de l'approfondissement de leur mystère propre. Et ça, c'est une véritable exigence intellectuelle.
Gabriel Giroud.
Pardon,
allez-y. Pierre-Marie Sigaud.
Oui, j'ai quand même... j'interviens effectivement parce que je pense que c'est très, très important. Effectivement, nous vivons dans un contexte, dans un climat mental, dans un climat très particulier. Et dans ce contexte, après tout, pourquoi faire des comparaisons, des parallèles entre tel ou tel aspect de telle ou telle religion, etc. Oui. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous sommes, comme disait mon vieil ami Jean Borella, nous ne sommes plus en régime de tradition. Les sociétés traditionnelles étaient relativement équilibrées, et pour elles, la pluralité des religions n'était pas un problème. Le charretier du coin, le maréchal Ferrand, etc., tout ça, c'était pas leur problème. Et même les prêtres et les gens simples. Alors, les intellectuels se sont quand même posé la question assez souvent. On peut faire référence déjà à Nicolas de Cuse qui avait
posé...
Au XVe siècle, qui s'était heurté à cette question. Mais ça restait tout à fait marginal. Et nous vivons dans un monde où il n'y a plus de frontières, hélas, mais il n'y a plus de frontières, où il n'y a plus de séparation, où tout est dans tout et réciproquement, et où tout se mélange, et chacun d'entre nous est confronté, s'il est un petit peu exigeant intellectuellement, il est confronté à la comparaison volontaire, ou pas forcément volontaire, des autres traditions spirituelles, qui sont là, qui sont chez nous. C'est pas, elles ne sont pas dans un lointain Orient qu'évoquait Guénon, non, pas du tout. Elles sont là. Elles sont là, bouddhisme, islam, etc. Bon. Et là, la question se pose. Alors, moi, je parle en mon nom, mais moi, quand j'étais enfant, c'est une des premières questions que je me suis posée face au...
Pierre-Marie, faites comme si vous vous adressiez à Gaël, à Gabriel.
Voilà, oui. Alors, oui, la première question à laquelle, une des premières questions auxquelles je me suis heurté, outre la beauté et l'immensité du ciel, surtout nocturne, c'était pourquoi y a-t-il... On nous dit qu'il y a une vérité, mais une vérité, elle est unique, normalement. Sinon, ce n'est pas une vérité. Pourquoi y a-t-il des religions différentes et qui prétendent toutes à l'unicité? Pourquoi peut-on essayer de comprendre, sont-elles conciliables ou bien sont-elles hostiles les unes aux autres? Ce qui s'est passé historiquement très souvent, d'ailleurs. Voilà. Et alors... C'est là où moi je fais intervenir Guénon. Moi, la lecture de Guénon a été décisive pour moi parce que il a répondu à ces questions. Et d'une façon exceptionnellement claire, profonde. Alors, je ne sais pas si c'est un mystère. En tout cas, il a répondu, me semble-t-il, d'une façon convaincante à ces questions. Voilà. Et alors, donc, c'est ce qui justifie, si vous voulez, l'importance de son œuvre, parce que je suis redevenu chrétien grâce à René Guénon.
Parfait. Alors, quelqu'un, un des auditeurs de Courtoisie, me fait passer une question qui est, est-ce que ce syncrétisme religieux, on reviendra sur le terme syncrétisme qui ne doit pas être exact évidemment, n'est-il pas aussi une méthode maçonnique de rechercher la vérité à travers les traditions partagées, etc.
Vas-y.
Vas-y.
Allez, Paul.
Oui, alors, je commencerai par une réponse factuelle en disant que non. Pourquoi ? Parce que, justement, on parlait tout à l'heure de Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse était un évêque et cardinal du XVe siècle qui, justement, a pensé l'unité des religions dans le Verbe. Alors, en 1453, lors de la chute de Constantinople, qui est prise par les Ottomans, plutôt que d'appeler à la guerre de religion, Nicolas de Cuse prend la décision suite à une illumination intérieure, d'écrire un livre, un dialogue, il était platonicien, un dialogue qui s'intitulait « La paix de la foi » de Pace Fidei. Et qu'est-ce qu'il imagine dans ce dialogue? Il imagine un grand concile universel qui réunit les sages des différentes grandes religions, les sages des différentes religions authentiques. Une religion authentique, qu'est-ce que j'entends par là? Je donnerai la définition que donne Simone Veil. C'est une religion à prétention universelle. Et donc il réunit les sages des différentes religions authentiques autour du Verbe. Donc le Verbe, le Christ, réunit autour de lui ces différents sages pour dégager leurs points communs. C'est-à-dire, quelles sont les vérités communes que partagent ces différentes religions dès lors qu'on adopte un point de vue spirituel, c'est-à-dire... qui ne s'arrête pas à l'écorce, à l'extériorité de la religion, mais qui va chercher le noyau, pour reprendre une distinction que l'on trouve dans le soufisme, aller chercher le noyau, c'est-à-dire cette vérité commune qui correspond à ce que les pères de l'Église appelaient les semences du Verbe. Nicolas de Cuse n'était pas du tout franc-maçon. Et toute une tradition qui s'est élaborée d'une certaine renaissance, je dis une certaine renaissance parce qu'on peut distinguer... Là aussi, pardon, mais je parle encore sous l'autorité de Simone Veil. Simone Veil oppose deux renaissances. La première, platonicienne, spirituelle et traditionnelle, et la seconde, qui elle est au contraire matérialiste et qui a préparé la pensée des Lumières. Et bien, dans toute cette première renaissance, on voit se développer tout un courant qu'on appelle la Prisca Theologia, en latin, donc, où se développe cette idée justement de Sophia Perennis, de Sagesse éternelle, qu'ont en commun les différentes traditions sacrées de l'humanité. Donc, ce n'est pas une invention maçonnique. Alors, après, bien sûr, on retrouve effectivement cette idée dans la franc-maçonnerie, mais là, c'est tout un autre problème, celui de l'histoire de la franc-maçonnerie, qui est un phénomène extrêmement complexe. Je citerai un seul fait là-dessus, c'est que pendant la Révolution, il y a quelque chose dont on parle assez peu, j'ai écrit un article dans la revue Philite, si vos auditeurs veulent aller le consulter, qui s'appelle « La franc-maçonnerie contre-révolutionnaire ». Sous la Révolution, alors 1 à 4% des loges seulement étaient encore actives. C'est-à-dire que les loges ont statistiquement encore plus souffert, ça paraît très étonnant de dire ça, mais de la Révolution que le clergé lui-même. Sans parler bien sûr de grandes figures contre-révolutionnaires, comme celle de Joseph de Maistre, que vos auditeurs doivent assez bien connaître. Donc, la franc-maçonnerie, c'est déjà un phénomène très complexe, qui a une histoire, qui a énormément, d'ailleurs, effectivement, dégénéré et dévié d'un point de vue historique. On pourrait revenir sur ce sujet si vous le voulez. Mais en tout cas, cette idée de sagesse pérenne, effectivement, n'est pas une invention maçonnique. Et on la retrouve même chez les pères de l'Église. On citait tout à l'heure Saint Augustin dans ses rétractations. On pourrait en citer d'autres, plusieurs pères de l'Église qui élargissaient l'ancienne alliance aux païens, aux philosophes, aux brahmanes en Inde, aux druides, etc.
Très bien, oui. C'est le moment de faire une incise totalement publicitaire et promotionnelle. Chers auditeurs, je répète souvent, vous êtes 1,5 million à nous écouter sur une semaine, vous êtes moins de 20 000 à nous donner. Ben, n'hésitez pas, voilà, l'été arrive, les chaleurs, c'est le moment d'acheter quelques livres intelligents comme René Guénon, La tradition primordiale et le christianisme, aux éditions L'Harmattan par Gabriel Giraud, mais c'est le moment aussi peut-être de consacrer 1 ou 2 euros à Radio Courtoisie et de nous donner cette modeste obole, peut-être un peu plus, n'hésitez pas, en vous connectant à soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Et pour ceux qui sont réfractaires au numérique, eh bien, un bon chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et quand je dis un bon chèque, il suffit qu'il soit signé et lui aussi peut-être modeste, 1, 2, 5 euros. Ça nous suffira pour traverser l'été. Merci beaucoup. Ça va être compliqué d'enchaîner avec une vraie question juste derrière, mais l'homme ne vit pas que de pain. Et si au contraire, justement, l'homme vit aussi de pain. Donc, reposons cette question du syncrétisme dont vous nous dites la vérité est comme le sommet de la montagne. Cette montagne est universelle. Chacun peut l'attaquer par telle ou telle voie, comme un alpiniste qui décide d'ouvrir sur un sommet déjà connu une voie encore inexplorée, ou au contraire emprunter les voies qui existent déjà, dont aucune ne paraît avoir réellement atteint le sommet, puisque une fois qu'on l'a atteint, ça y est, on passe dans un autre monde, et donc que j'attaque par la face nord, la face sud, que j'établisse mon camp de base du côté du XVIIe siècle français ou au contraire du Xe siècle chinois, je peux progresser jusqu'en haut de la montagne, et on s'est dit quand même, à force de vouloir repérer les concordances, à force de se dire que différentes traditions permettent d'aboutir au même résultat, il y a aussi la tentation justement d'excéder ce que pose Guénon comme principe, c'est-à-dire que chaque religion correspond à un lieu et à un temps, et de se dire aujourd'hui je suis plus malin que tous ces temps et tous ces lieux réunis, et je vais puiser le meilleur dans les différentes traditions. Et là, à ce moment-là, ce choix... cette hérésie, oui. Pour le dire de cette manière-là, est presque un danger quand même, parce que j'excède les vertus propres de chaque religion ou de chaque voie pour me bâtir ma voie à moi tout seul.
Je dirais même que c'est la tentation antéchristique même, c'est-à-dire que comme on vit une période qu'on pourrait appeler de fin des temps. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on pense selon les doctrines traditionnelles. En fait, les frontières sont dissoutes. Donc effectivement, il y a un grand mélange des peuples, des cultures et des religions, ce qui crée une espèce de fausse unité qui en fait est babélienne, qui est en fait le mondialisme, où effectivement il y a un risque de relativisme en fait, mais ça Guénon le combat en fait, Guénon, il distingue le syncrétisme et la synthèse. Il dit l'unité transcendante des religions ne peut pas être due à syncrétisme puisque justement elle se situe à un niveau métaphysique. Ce qui veut dire que le seul moyen pour nous qui sommes dans l'espace et le temps, mais on est incarné dans un corps et dans une histoire, c'est de participer à une seule tradition. Et donc il y a en fait un jeu qui est harmonique, c'est-à-dire que mais en fait c'est comme en fait les individus qui en fait découvrent une altérité et en fait on découvre qu'on partage une nature humaine commune, je sais pas. Et je dirais même que ça devrait pas faire peur aux chrétiens parce que pour les chrétiens, Dieu lui-même n'est pas une unité simple, c'est une unité qui est trinité, c'est-à-dire c'est une unité qui intègre une altérité. Et donc je pense qu'il faut pas avoir peur de l'altérité. Par contre, le conseil de Guénon, c'est quand même de en fait rester ancré dans une seule tradition. Il faut en fait que ce soit cohérent. Lui utilise un symbolisme constructif. Il dit on a bâti sur des fondations. Et il y a les fondations pour un chrétien, c'est les sacrements par exemple. Et puis après on monte. Mais en fait, comme pour remonter sur le chemin, il y a aussi une autre image qu'on peut utiliser, c'est l'image de l'arc-en-ciel, qui est le signe de l'alliance donnée à Noé. Et donc l'arc-en-ciel, c'est la lumière qui se diffracte en sept ou six, je sais pas, sept couleurs. Et en fait, c'est le signe de l'alliance universelle pour l'humanité donnée par Dieu à Noé. Et on peut y voir un symbole de la pluralité des religions, puisque toutes participent de la même lumière, mais au moment cyclique où nous nous trouvons, qui est un moment historique en fait, chaque religion incarne une tendance particulière, et il faut y rester fidèle, hein. Il faut y rester fidèle jusqu'au retour du Christ, je dirais.
Oui. Dans votre livre, Gabriel Giraud, justement, vous parlez de la manière dont René Guénon installe le christianisme à un moment historique précis, qui est celui de la dégénérescence, en fait, des vieilles religions gréco-romaines, oui, qui arrivent en fin de cycle, selon lui. Alors, on a l'impression un peu d'une espèce de providence rétrospective, c'est-à-dire le christianisme apparaît, René Guénon nous explique que ça tombe bien, c'était au moment où les religions gréco-romaines étaient dégénérescentes. Bon, il n'est pas forcément évident qu'il y ait tout l'appareil historique qui permette d'expliquer à quel point elles étaient dégénérées ou pas. Mais en tout cas, lui considère que le christianisme arrive au bon moment et que cette espèce de judaïsme régénéré par un rabbi précis, Jésus, rencontre son moment historique et devient moins une façon de vivre le judaïsme réservée à une petite élite de prêtres, de lévites particulièrement intelligents, et devient en fait une religion publique, une religion populaire. On passe de l'ésotérisme à l'exotérisme. Voilà, c'est le moyen qui est à ce moment-là fortuitement proposé dans cette région et qui devient en fait la religion du monde. Et là aussi, comment Guénon justifie-t-il, entre guillemets, que cette tradition hébraïque, certains pensent qu'il y a au tout début une espèce de dieu forgeron qui va permettre qui constitue ce culte, qui de peu à peu on oublie le dieu forgeron initial, c'est l'histoire de l'hébraïsme, et Jésus-Christ apparaît, transforme profondément cette religion juive, et au lieu que ça reste dans son temps et dans son lieu, autrement dit, au lieu que ça suive un schéma guénonien classique, ça se répand comme une traînée de poudre par l'entremise du monde gréco-romain, de l'Empire romain, et même au-delà, saint Thomas s'était déjà carapaté jusqu'en Chine, comme en témoigne un certain nombre de découvertes archéologiques, et évidemment, il a suffi que les caravelles soient inventées pour que, on exporte le christianisme ailleurs. Donc, et ça, c'est presque, là aussi, contradictoire avec les schémas guénoniens classiques.
Oui, ça fait partie des difficultés pour un chrétien de lire René Guénon, c'est que il donne une vision du christianisme qui à première vue est quand même très 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 islamique en fait. C'est-à-dire qu'il a une vision du christianisme comme une il appelle ça une adaptation providentielle, c'est-à-dire... Mais ça fait un peu bricolage, vous voyez.
Oui, c'est un peu le sentiment.
C'est le sentiment qu'on peut avoir.
On a un sentiment d'une espèce de lecture rétrospective de l'histoire du christianisme où on se dit, tiens, je vais forger ma théorie en suivant en fait le développement historique tel qu'on le connaît et je vais faire un peu de rétro-ingénierie.
Mais en même temps, c'est vraiment l'histoire et le drame du christianisme. C'est que le christianisme... c'est fondé sur ce qu'on peut appeler un drame, alors qu'un drame qui faisait peut-être partie du plan divin de cette manière, mais sur un drame qui est que le Messie d'Israël, qui devait en fait restaurer la tradition primordiale et puis le royaume d'Israël, c'est-à-dire c'était le nouveau David, etc., a fini sur une croix, et en fait rejeté par son propre peuple, ou en tout cas par son... En tout cas l'élite qui représentait Israël à ce moment-là. Donc le christianisme se présente comme un drame, et du coup ça donne quand même l'idée qu'il y a un temps d'attente. En fait pour la vision traditionnelle, ça va marquer une espèce de temps d'attente avant la fin des temps, dont tous les chrétiens attendent depuis 2000 ans, en fait. Hein. Oui, vas-y, je sais pas.
Oui, justement, je veux rebondir sur ce que vient de dire Gabriel Giraud, parce que, ironie de l'histoire, je souscris davantage à la lecture de Gabriel Giraud qu'à celle de René Guénon, sur cette question de la mission du christianisme. Effectivement, la reconstruction historique me semble en fait très discutable si on imagine que le christianisme aurait eu pour but de régénérer un empire romain décadent, puisque spirituellement, il me semble que ce n'était pas le cas. Le mithraïsme, par exemple, qui était un culte à mystère, était très développé, ainsi que le zoroastrisme. Je trouve l'explication que donne Gabriel Giraud plus pertinente, dans le sens où... La cause, j'allais dire, est endogène et non pas exogène. C'est-à-dire que le Christ a été rejeté par son peuple, et c'est ayant été rejeté qu'il a fondé une nouvelle religion. Alors là, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, puisque d'un point de vue chrétien, c'est de l'ordre des desseins divins aussi. Mais c'est le fameux verset, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc je veux dire, toute l'explication que propose Gabriel Giraud se fonde là-dessus et me semble beaucoup plus pertinente que ce genre de reconstruction historique qui me semble en tout cas beaucoup plus effectivement discutable.
Non, puis c'est aussi Saint Paul qui... Saint Paul, en fait, il a... Parce qu'on... Et parfois, Saint Paul n'a pas connu le Jésus historique. Oui, mais il a connu le Christ glorieux.
C'est ça.
En fait, Saint Paul, je vais parler en termes guénoniens, Saint Paul a été missionné pour transformer le christianisme. Et d'ailleurs, il en donne en fait la clé, on pourrait dire la clé eschatologique, puisqu'il dit, en fait... Israël a rejeté le Christ pour laisser le temps aux nations d'entrer. Donc, c'est-à-dire, il se sert d'un événement qui était un drame, même si ça avait été prévu quelque part par les prophéties chez Isaïe, etc. C'était quand même prévisible. Mais il se sert d'un drame pour dire, on ira quand même. On ira quand même au but de se rapprocher de la fin des temps, mais par un autre chemin. Et je crois que c'est assez orthodoxe de dire ça. C'est-à-dire le christianisme ne nie pas qu'il a été transformé, qu'il a été ouvert aux païens, ça s'est fait sur plusieurs siècles jusqu'au...
En même temps, le dialogue entre Pierre et Paul, c'est assez rapide. Le dialogue sur l'adaptation du message du Christ immédiatement aux païens et aux Antilles. Ça se fait dans les 15 ans qui suivent. Hein, donc,
oui, c'est vrai, c'est vrai.
Après ça, oui, le fait que ça se développe sur plusieurs siècles, c'est
oui,
normal.
Oui, après, mais... j'imagine qu'il y a eu plusieurs temps, plusieurs écoles et plusieurs tendances.
Pierre-Marie Simon, le fait, là on se focalise évidemment et à juste titre sur la tradition primordiale et le christianisme, parce que c'est l'ouvrage de Gabriel.
Giraud.
Giraud, voilà. Et dans votre collection Théoria, à côté de ça, il y a mille autres choses qui ne sont pas spécifiques. Enfin, elles sont peut-être guénoniennes, mais elles ne sont pas spécifiquement chrétiennes.
Ben, oui, c'est tout à fait évident.
Svami Satsidanandarasaravasti, Doctrine et méthode de l'Advaita Vedanta, par exemple. J'ai choisi le truc le plus long possible.
Oui, mais non, mais c'est très juste. C'est-à-dire, j'ai eu envie, au départ, de ne pas, encore une fois, d'établir des frontières, des limites entre les différentes traditions spirituelles. Alors, ça me paraissait nécessaire, d'abord parce que j'ai toujours été passionné par cette démarche comparative, et que moi je pense très profondément que plus on approfondit la question de ce point de vue, plus effectivement les concordances se multiplient. C'est un peu comme quand on arrive en haut de la montagne, quand on est en bas de la montagne, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, on ne comprend pas, on ne peut pas partager avec lui parce qu'on ne parle pas sa langue, etc. Quand on arrive en haut, et ben forcément on se trouve face à face et ça marche mieux. D'où mon désir de, comment dire, oui, de pluralisme. Pourquoi ? Ben parce que je pense que les auteurs que j'ai publiés sont des auteurs qui, justement, permettent de saisir ces concordances, ces nuances, tout ça, sans syncrétisme, sans trafic, etc. Et pour moi, c'est important, ça faisait partie.
Ça faisait partie
de ma vocation, si vous voulez.
Très, très bien, vocation. Paul Duquet, Aphilite aussi, il y a une ouverture d'esprit, et donc vous n'êtes pas dans une seule type de littérature, vous n'êtes pas dans une seule philosophie. C'est ça qui vous a amené, si j'ose dire, à fréquenter les pérennialistes?
Absolument, c'est-à-dire que avant même d'écrire Aphilite, effectivement, j'avais découvert René Guénon justement dans cette revue. Et effectivement, alors Aphilite, alors là je parle quand même en mon nom propre, mais Aphilite suit une ligne antimoderne, c'est-à-dire que nous explorons en fait tout le champ très large de l'antimodernité. Alors ça va de Joseph de Maistre à Léon Blois, en passant par Charles Péguy, ou même Michel Foucault à sa manière. Vous voyez, donc le prisme est très large. Et effectivement, cette approche pluraliste est essentielle parce que il ne faut pas s'imaginer, ça c'est un point d'ailleurs très important de l'œuvre de René Guénon, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que la modernité s'opposerait à la tradition comme deux termes égaux. C'est-à-dire que d'un point de vue guénonien, la modernité, c'est une dégénérescence de la tradition. Ce n'est donc qu'une possibilité parmi tant d'autres doctrines possibles. Et donc, la tradition, d'un point de vue pérennialiste, n'a donc rien à voir avec, ni avec l'exclusivisme et la fermeture d'esprit, ou l'étroitesse d'esprit, ni avec le particularisme. C'est-à-dire que la tradition, ce n'est pas la coutume. Voilà. Comme le disait tout à l'heure Gabriel Giraud, la tradition, d'un point de vue pérennialiste, c'est quelque chose de guénonien. Si on part de l'étymologie latine, tradere, ce qui est transmis, la tradition, c'est d'abord quelque chose qui est reçu et non pas construit. C'est en ce sens-là, donc c'est d'origine non humaine. Donc la tradition nous ouvre à l'universel. Voilà. Mais elle nous ouvre à l'universel en passant nécessairement par la médiation d'une forme traditionnelle incarnée, en l'occurrence le christianisme pour ce qui me concerne, et c'est par cette voie-là que l'on accède à l'universel. Je précise aussi, bien sûr, qu'on parle beaucoup de René Guénon depuis tout à l'heure, mais en réalité, le pérennialisme, on a parlé de Nicolas de Cuse, de Simone Veil, ça recouvre des auteurs et donc des perspectives différentes et parfois divergentes sur certains points, notamment le rôle du christianisme.
Gabriel, dans le choix d'écrire René Guénon, la tradition primordiale et le christianisme, voilà, il y a aussi tout ce chemin fait par la pensée de René Guénon et aussi tout le rejet de la pensée de René Guénon, à qui, pas que l'Action française, mais d'autres, ont reproché justement son orientalisme, son dégoût de l'Occident, sa condamnation de l'Occident. Alors évidemment, il prenait ça très haut en expliquant qu'il était juste en train de considérer les cycles et que, voilà, il observait la chute de l'un et l'émergence de l'autre, et même il appelait à revenir au mouvement initial. Mais il y a quand même, dans les critiques qui sont portées à René Guénon, l'idée que son anti-occidentalisme n'est pas juste une espèce de constatation d'un pur esprit regardant avec beaucoup de sérénité et beaucoup de hauteur le mouvement des civilisations. Il y a aussi l'idée que c'est une civilisation qui ne lui convient pas.
Oui, mais il faut faire attention. Quand en fait Guénon critique l'Occident, c'est l'Occident moderne. C'est-à-dire il a aucun souci avec la tradition chrétienne du Moyen-Âge, qui pour lui est une société traditionnelle, parce que mais elle est fondée sur un empire. Enfin, c'est et donc qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Vous me disiez.
Et je vous disais que on a pu reprocher à René Guénon son anti-occidentalisme.
Voilà, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est très rare que je me souvienne de mes questions.
Et en fait, oui. Guénon, il adresse un avertissement à l'Occident moderne, parce qu'il dit, vous avez renié votre propre tradition, c'est-à-dire votre moyen de participer en fait, à la vie divine, depuis en gros la Révolution française. Alors ça remonte encore un peu avant, mais voilà.
Ça remonte jusqu'à Philippe le Bel.
Oui, voilà, pour être exact. Et donc en fait, il met un avertissement. Il dit soit vous revenez à ce que vous étiez au Moyen Âge, vrai absolument qu'il faudra être aidé par en fait l'Orient, parce que en Orient il y a encore eu une élite spirituelle. Soit vous effondrerez, parce qu'il annonce ça quand même, soit, troisième scénario, soit vous seriez aspiré par une civilisation orientale.
Remplacé, là, pour le coup.
Et là, il pense à l'islam. Hein, ouais, voilà, donc, et ça il l'a écrit il y a 100 ans. Oui. Donc, vous voyez quand même sa longueur de vue.
Alors, c'était l'époque où il y avait déjà effectivement une expansion musulmane, et donc on peut effectivement saluer la manière dont il a pressenti un mouvement qui nous paraît aujourd'hui consommé. Mais cela dit, Pierre-Marie Sigaud, entre l'islam de René Guénon et le fondamentalisme musulman auquel on assiste aujourd'hui, entre Al-Qaïda et les soufis, enfin, on a l'impression qu'il y a une grosse distance quand même.
Oui, une très grosse distance. Ouais. Ça veut. Il faut le dire, en réalité, les phénomènes occasionnés par, qui sont généralement d'ailleurs violents, par certaines formes de l'islam modernisé, parce qu'en fait ce sont des modernes, est absolument inconciliable avec toute forme de religion traditionnelle, l'islam compris. Mais quand les chrétiens allaient massacrer des protestants, bon, c'était pas bien non plus. Il faut le dire aussi.
Ils se massacraient entre chrétiens déjà, mais
oui, catholiques.
Mais cet islam nouveau est en même temps un islam originaliste, c'est-à-dire il prétend redécouvrir l'islam, oui, des origines. Oui. Donc, lui aussi, il est dans une espèce de quête du moment initial.
Ne cherchons pas trop loin. En Occident, dans les années 60-70, on était dans la quête des origines, hein, en particulier dans le domaine liturgique, bien sûr. Et donc, c'est comme ça. Alors, il faut que le scandale arrive.
Paul Ducaille.
René Guénon, justement, a écrit une phrase noir sur blanc sur ce sujet. Il dit... Alors, je ne vais pas pouvoir la reconstruire à 100% exactement, mais il dit que le fantasme des origines est systématiquement corrélé à l'hérésie. Alors, il pensait à la fois au protestantisme et au wahhabisme. C'est-à-dire qu'il y a toute une correspondance de René Guénon où il aborde le problème du wahhabisme et il remarque que, parce qu'il s'est installé au Caire en Égypte dans les années 30, il remarque que l'insulte que les paysans égyptiens avaient à la bouche, les paysans égyptiens musulmans, c'était de traiter quelqu'un de wahhabite. C'est-à-dire que la piété populaire traditionnelle en Égypte avait enregistré le danger en fait, que représentait à cette époque le wahhabisme. Alors il y aurait toute une histoire à reconstruire là aussi, entre le démantèlement de l'Empire ottoman et le pacte de Najd avec la complicité des États-Unis. Le fondamentalisme islamiste a lui-même une origine. Je rappellerai aussi à ce titre que la plupart des lieux saints, non seulement autour de la Mecque, mais aussi en Afrique, notamment subsaharienne, des lieux saints de saints musulmans, ont été détruits précisément par les courants fondamentalistes. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que chaque fois qu'une religion suit une dérive hérétique et fondamentaliste, justement, il s'agit toujours d'une négation de la médiation traditionnelle. Observer les différentes religions, c'est le même schéma qui se produit à chaque fois. C'est-à-dire qu'on répute la médiation traditionnelle illégitime à cause d'ailleurs de ces errances accidentelles et tout à fait réelles. Vous voyez. C'est la doctrine notamment du libre examen dans le protestantisme. Qui est problématique. Alors, on ne va pas faire une émission sur la question du libre examen, mais c'est un point commun aux différentes religions que de se moderniser par le rejet des médiations traditionnelles et par ce fantasme du retour aux origines. Guénon n'est pas du tout dans cette optique-là, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un retour aux origines fantasmé, puisqu'au contraire, pour lui, il s'agit de suivre un maître spirituel aujourd'hui, hic et nunc, aujourd'hui donc en 2026, et par là, d'approfondir la doctrine spirituelle de la religion dont on a hérité. Donc c'est non seulement il ne rejette pas la médiation traditionnelle de l'institution religieuse, mais il la légitime pleinement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen à l'homme pour revenir à l'origine que de passer par ce canal via lequel nous accédons à l'origine. Par ce canal, excusez-moi, par lequel nous accédons effectivement à cette origine. Voilà.
Gabriel Gervais.
Oui, enfin aussi ce qu'il faut vraiment qu'on apprenne, c'est que ces mouvements qu'on a dit fondamentalisme sont en fait des mouvements ultra modernes. En fait, c'est des mouvements de rupture avec la tradition, parce que c'est des gens qui rejettent tout, enfin, en fait toute la chaîne des savants, des rites, des saints aussi, le culte des saints, pour revenir à ce qu'ils imaginent être la religion vraie, mais de laquelle ils n'ont aucun accès réel. Et votre parallèle avec les protestants est très juste. C'est-à-dire que le protestantisme, c'est un mouvement moderne qui est très individualiste et rationaliste et qui dit, ben oui, nous avons le texte, ça nous suffit. Mais justement, Guénon dit pas ça du tout. Guénon dit la tradition, c'est ce qu'il appelle une chaîne initiatique qui traverse les siècles, qui est transmise, adhérée, transmettre,
c'est ça.
Qui est transmise d'humain à humain, mais en fait qui a une origine divine. Et pour les chrétiens, c'est par exemple les sacrements.
Voilà, c'est pas juste une transmission humaine, c'est aussi une transmission institutionnelle. En fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'on voit bien que là où le protestantisme rejette l'Église comme étant une médiation qui ne sert à rien, qui n'est pas nécessaire, et que la relation personnelle de Dieu à l'humain suffit, au contraire, un certain guénonisme, en tout cas votre guénonisme à vous, considère que la tradition, au sens, si j'ose dire, le plus lefévriste du terme, c'est-à-dire la liturgie, les rites, le culte des saints, une partie des coutumes, même les plus folkloriques qui soient, là on voyait sur les réseaux l'une des une ville espagnole ou italienne où la coutume est de porter le buste, un buste évidemment gigantesque et qui pèse quelques tonnes. 60 personnes courent le long d'un escalier raide comme la justice pour le porter du bas de la cathédrale jusqu'au parvis. On se dit, très bien, là, on est en train d'assister à quelque chose qui est de l'ordre du folklore, mais qui, en même temps, charrie avec lui un saint précis par rapport à un épisode précis, comme par hasard, c'était le sac de la ville par les Ottomans, auquel la ville a échappé. Et donc, on se rend compte que chez Guénon, la médiation est vraiment absolument nécessaire. Et là aussi, c'est quelque chose qui renvoie à une culture précise, c'est-à-dire le catholicisme latin est vraiment une tradition précise et je ne peux pas me permettre d'aller attraper telle prière soufie pour la réciter au moment des prières en bas de l'autel ou de considérer que le salut au soleil fait partie d'une nouvelle manière de réciter le Je vous salue Marie.
Tout à fait.
Oui, puis Guénon dit même que c'est dangereux de mélanger les formes traditionnelles parce que quand vous participez à une forme traditionnelle, ce qui n'est pas une forme traditionnelle, c'est-à-dire en fait une religion, vous appartenez à un univers psychique qui pour lui est réel et en fait diffuse des influences à la fois spirituelles et psychiques. Et dit le mélange est extrêmement en fait ça va créer des équilibres. Et donc, et c'est là où on peut reboucler avec Théoria, enfin la collection Théoria, ce à quoi Guénon appelle, c'est ce qu'il appelle une entente sur les principes, qui est une entente intellectuelle, mais qui à aucun moment il s'agit de mélanger les rites ou etc. Et en fait, c'est aussi en ça que l'œuvre de René Guénon et puis le courant qui a en fait derrière, qui est le périnéalisme. En fait, c'est le véritable œcuménisme. C'est-à-dire que ce qui est étrange dans l'Église actuelle, c'est qu'on parle d'œcuménisme sans donner les moyens intellectuels de le comprendre. Ce qui fait qu'on demande aux gens de se prendre dans les bras, mais alors que en fait chaque religion pense que les autres ont tort. Mais en fait, ce à quoi appelle Guénon...
Enfin, et ceux qui disent que les autres religions ont raison ont tendance à oublier la leur.
Exactement. Plus, oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, ça, vous pouvez faire cette synthèse qui n'est pas un syncrétisme que sur un plan intellectuel, mais la participation à la tradition, comme nous sommes non seulement une âme et un corps,
oui.
Mais elle est incarnée.
Oui, voilà. Si je puis me permettre, en fait, l'écuménisme tel qu'on le perçoit souvent en fait, aujourd'hui, qui est un écuménisme par le bas, et non un écuménisme par le haut, par de l'intérieur, tel que le pense Guénon, c'est en fait le négatif inversé de l'unité des religions tel que le pense Guénon. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans les formes extérieures, tandis que dans l'intériorité, au contraire, vous l'avez très bien dit, monsieur, c'est effectivement... on oublie souvent sa propre tradition en pensant s'ouvrir aux autres. Au contraire, c'est l'ouverture aux autres traditions. Si on est sérieux de seconde, doit nous ramener à la vérité de notre propre tradition. C'est ce qui se passe en réalité quand on lit notamment Ananda Kohomaraswamy que Pierre Marissigo a beaucoup édité, ainsi que Fritjof Suon. C'est-à-dire que le comparatisme rigoureux entre les différentes traditions sont autant de confirmations, même anthropologiques, de la vérité de la tradition chrétienne, pour parler de mon point de vue personnel. Voilà. Donc c'est tout à fait une représentation contraire à l'esprit du temps. Et de ce point de vue, Vatican II a suivi un certain inclusivisme qui est celui de Jacques Maritain. Mais là, j'ouvrirai une question parce que il nous reste peu de temps, mais...
3 minutes et 5 secondes.
Voilà. En suivant cette voie-là, est-ce que l'œcuménisme a fait un bon choix? Voilà, je poserai cette question. Et la réponse, je pense, on la trouvera en lisant les livres de la collection Théoria.
Oui, non, mais en plus, je dirais, l'Église a ouvert une voie qui peut amener au pire comme au meilleur, mais c'est à nous d'en faire le meilleur. Parce que si on suit Guénon, Schwann, et puis en fait la collection Théoria, on peut faire de Vatican II,
ah oui,
en fait, quelque chose.
Oui, absolument, oui, oui. Mais donc, Vatican II est un atteinte de, j'allais dire presque un atteinte de sa propre doctrine.
Exactement.
On vit aujourd'hui dans l'époque d'une confusion généralisée. Mm. Il faut mettre beaucoup d'ordre, beaucoup de discrimination. C'est un concept qui est très important dans la philosophie indienne, la discrimination. C'est-à-dire discriminer le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid, et effectivement, et sans céder au confusionnisme et au syncrétisme, qui sont les parfaits reflets inversés de la synthèse traditionnelle à laquelle nous appellent les auteurs pérennialistes.
Mais une fois de plus, la synthèse, c'est quand on arrive au sommet de la montagne, alors que là, on a l'impression que tout le monde est en train de se donner la main au pied de la montagne.
Exactement.
En disant finalement,
exactement,
ça ne sert à rien de grimper. Donc bon, exactement, on dit que c'est un peu dommage. Une dernière question polémique, juste pour le plaisir. Lorsque certains nous parlent de paganisme et réinventent des rites avec tel type de statue, tel type de salut, et est-ce qu'eux, ils sont en train de se rapprocher d'une tradition primordiale antéchrétienne, ou est-ce qu'au contraire, ils sont en train de se fourvoyer? Ma question n'est absolument pas orientée.
Alors là, Guénon dit il faut faire très attention, parce que une tradition qui est morte, enfin qui est disparue, il n'en reste que des vestiges, et des vestiges potentiellement dangereux. Puisqu'en fait, c'est quasiment de la sorcellerie pour Guénon. Donc il faut faire très attention à ça.
Oui, et puis c'est surtout que la continuité a été rompue, c'est-à-dire que la médiation a disparu.
C'est une tradition morte.
Ça n'est peut-être que des reconstitutions artificielles de vestiges, mais ce n'est pas de la tradition. La tradition, c'est d'origine non humaine, divine, suprahumaine. Donc ce ne peut être que des caricatures de tradition.
Le paganisme est un wahhabisme. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gervais, merci beaucoup Giraud, Stéphane, pardon. Merci beaucoup Pierre-Marie Sigaud, merci beaucoup Paul Duquey. Je répète, René Guénon, la tradition primordiale et le christianisme. Alors, je ne garantis pas avoir été convaincu par l'ouvrage, mais en tout cas, le lire a été plus qu'intéressant. Merci, et à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, à demain avec d'autres gens sur cette même antenne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Richard de Sèze, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 29 juin 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.